France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et neurologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui notre invité, neurologue, chercheur en neurosciences, a choisi d'évoquer une œuvre de Thomas Mann. Pas la plus connue, pas celle qui lui a valu son prix Nobel de littérature, mais celle qui reprend l'un des mythes les plus féconds pour notre époque et nos désirs de toute puissance, le mythe de Faust, revu par Mann sous les traits du docteur Faustus.
Permettez-moi avant tout de vous dire que je suis très heureux d'être de nouveau à Paris après une pause de 12 années. Quant au docteur Faustus, le livre dont la publication en langue française est la cause immédiate de ma visite, on pourrait nommer son héros le compositeur Adrian Levacune. Il est un homme, un artiste, qui porte la souffrance de l'époque, un représentant de la crise générale de la culture, dont celle de la musique est seulement un exemple, un paradigme.
Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes neurologue, professeur à la Pitié-Salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On vous doit plusieurs ouvrages. Le dernier, recueil de vos chroniques ici à France Culture, s'intitule « Sujet, es-tu là ?» et il est paru aux éditions Odile Jacob. Et quand nous vous avons demandé quel livre a été votre souffle de la pensée, vous nous avez dit Thomas Mann, le docteur Faustus. Pourquoi ce livre de Thomas Mann, qui n'est pas, je l'ai dit, le plus connu?
Absolument. Alors, je crois pour trois raisons. La première, qui est vraiment la réponse la plus directe, c'est qu'il fait partie, ce livre-là, vraiment des lectures qui m'ont laissé des traces profondes dans ma pensée. Et notamment, on le verra, mais la manière de laquelle Thomas Mann s'empare, comme vous le disiez, d'un mythe fondateur, le mythe de Faust, et qui, pour moi, en fait, est un mythe qui parle directement de la connaissance, de comment, quelles sont nos péripéties avec la connaissance, c'est quoi l'expérience de connaissance, qu'est-ce qu'elle a de splendide et de dangereux en même temps. Et la manière dont il le fait est une manière qui, pour moi, est absolument géniale, parce qu'elle permet de renouer avec les sources antiques, les sources très naturelles. Voilà, première chose, c'est que ce livre a vraiment laissé. Alors, et en préparant cette émission, je n'ai pas relu. Et je suis resté sur mes souvenirs. Je l'ai lu, voilà, j'ai 56 ans, je l'ai lu entre 30 et 40 ans.
Donc il y a quoi, 20 ans à peu près?
Un peu moins, ouais, 15-20, un truc comme ça. Donc, de voir, même de constater après, 15 ans, 20 ans après, qu'il a laissé encore des traces très vivantes, qui m'ont stimulé, etc. Première chose. Deuxième, c'est aussi le contexte dans lequel je l'avais lu. Alors, j'étais tombé sur la montagne magique de Thomas Mann quelques années auparavant, et j'avais adoré. Donc j'aimais beaucoup Mann, j'avais quasiment ensuite tout lu. Mais à ce moment-là, il s'avère que je travaillais sur un livre qui est devenu, en fait, un livre qui s'appelle « Perdons-nous connaissance », qui était autour de la connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et là, je ne connaissais pas cette archive que vous venez de diffuser de Thomas Mann. Et parler de la crise de la culture, je ne suis pas sûr que je la ferais résonner exactement de la même manière que Thomas Mann, dans l'immédiate après-guerre, dans l'effondrement de l'Europe, etc. Mais je crois effectivement qu'on traverse une crise de la culture à travers une crise de la connaissance. Et donc, quand je suis tombé sur cet ouvrage, c'est parce que je réfléchissais à partir d'autres sources, au traitement par différentes mythologies, différentes cultures, à toutes ces facettes de la connaissance, qui aujourd'hui, on est peut-être un peu dérouté. Voilà. Et puis, troisième, c'est un peu pas par esprit provocateur, mais c'est pas l'auteur qui est le plus lu, le plus admiré, le plus célébré. Alors, je suis pas là pour corriger des injustices, mais je trouvais ça sympathique de parler de Thomas Mann. Et effectivement, c'est pas la montagne magique qui est géniale, mais c'est un livre que, effectivement, peu de gens lisent aujourd'hui, alors que c'est un auteur, on lui a souvent reproché son intellectualisme, ses longs développements, etc. Mais à plusieurs égards, pour moi, c'est un auteur qui, aujourd'hui, devrait être lu ou relu, voilà.
Mais alors, c'est vrai que moi, je l'ai découvert, ce texte, grâce à vous, Lionel Nakache. C'est un texte qui, c'est vrai, bon, j'ai pas été par l'édition assez vieille que j'avais entre les mains, écrite toute petite, très chargée, pas de marge, mais qui est impressionnant, parce que c'est vrai que ce livre-là, le docteur Faustus, raconte donc l'histoire d'Adrian Levacune. On l'entend parler, Thomas Mann, dans cet archive de 50, oui. Donc de ce héros qui va signer un pacte avec le diable. C'est un musicien, compositeur. Il veut écrire, composer la musique parfaite, mais cette histoire est racontée du point de vue de son ami d'enfance, Serenus Zeitblom. Et effectivement, on se dit, ça va être très long, parce qu'on part vraiment de la petite enfance d'Adriane. Et puis, autre chose, c'est vrai que le mythe de Faust, il faut être presque déjà intéressé quand même par la question de la connaissance. Ça, c'est une question que je voulais vous poser, Lionel Nakache. Moi, le mythe de Faust, j'ai jamais compris en quoi c'était intéressant. Quelqu'un qui veut détenir la connaissance, et puis bon, il signe un pacte avec le diable, quel est l'intérêt de vouloir détenir toute la connaissance? Expliquez-moi l'enjeu de ce mythe.
Alors, vous avez raison. Alors, moi, je peux vous donner ma réponse.
Oui,
ma
votre réponse.
C'est la suivante, c'est que donc je fais peut-être un tout petit détour, c'est que si vous vous plongez dans 3000 ans de culture européenne, occidentale, et sans doute ailleurs, mais que je connais moins bien, on va trouver dans plein de sources différentes une sorte de double saut, de double facette de la connaissance, comme, en désignant la connaissance comme quelque chose d'à la fois vital, extraordinaire, presque la condition d'être en fait. Mais en même temps, en soulignant dès le départ les dangers de la connaissance, comme si la connaissance était à la fois quelque chose, j'aime bien parler d'une sorte d'oxymore de poison vital, c'est quelque chose. Et par exemple, je prends quelques exemples, vous prenez le mythe d'Icare. Il y a plusieurs lectures, mais Icare qui va mourir en ayant ses ailes en cire qui vont fondre parce qu'il rapproche du soleil, c'est pas uniquement une histoire d'hubris, c'est pas une histoire de rapport à son père qui était l'auteur du labyrinthe et des ailes, mais c'est aussi, et plusieurs personnes l'ont fait avant moi, c'est que le soleil c'est le symbole de la vérité, c'est la lumière, comme à l'esprit des lumières, etc. Donc le fait de vouloir se rapprocher trop qu'il ne faut, un peu comme s'il y avait une distance, que si vraiment on vise une connaissance ultime, alors le destin inéluctable c'est la mort. Donc un peu, et on pourrait dire le mythe biblique de l'arbre de la connaissance au terme duquel l'humain devient mortel. On a aussi un deuxième déclinaison de ce motif là vous prenez aussi plusieurs autres
le mythe de la caverne.
Alors le mythe de la caverne, il est fascinant parce que souvent les gens prennent le mythe de la caverne comme une sorte d'allégorie aussi de l'importance philosophique de la connaissance. Mais si on s'intéresse à la fin du mythe de la caverne, donc le contexte, c'est Socrate, donc je crois la figure de c'est Glaucon qui est le neveu de Platon. Donc Socrate lui explique le mythe de la caverne. Imaginons que tous les hommes étaient en fait enchaînés dans une grotte et qu'ils ne voient que la face éclairée par de l'extérieur, mais ils n'ont pas accès directement à la lumière. Alors voilà, il développe tout ce qui se passe comme représentation, etc., qui n'ont pas accès directement à la vérité, on pourrait dire. Et puis il envisage le scénario où quelqu'un vient et va libérer un individu, et puis on voit toutes les étapes de libération, d'arriver à sortir de la grotte. On voit toutes les résistances déjà de l'individu à l'idée de sortir de la grotte, quand en fait on n'a pas envie de sortir de la grotte, on est bien dans la grotte, etc. Donc Socrate fait ça, et en fait dans le dialogue, on pourrait se dire, si c'était une idéologie, une sorte, on va vendre le côté sympathique de la connaissance, ça pourrait s'arrêter là. Mais la toute fin de ce dialogue, c'est qu'en fait Socrate dit, mais imagine maintenant si quelqu'un venait et allait libérer tous ces gens, qu'est-ce qui lui arriverait? Et en fait, il le mettrait à mort à toute force. C'est-à-dire, en fait, la dimension que cette fois-ci, ce n'est pas juste connaître qui peut conduire à la mort pour soi-même, comme Icare. Je veux connaître, et en fait, le bout de la connaissance, ça va être une forme de mort. Mais c'est également une dimension sociale. C'est qu'en fait, vouloir apporter ou diffuser la connaissance, c'est aussi dangereux pour la société. On pourrait dire Socrate qui va boire de la ciguë, c'est presque la mise en abîme de la caverne. C'est qu'on va le condamner à mort pour avoir voulu dévoyer les jeunes générations en changeant l'image des dieux, etc. Vous avez des traces, je prenais des traces aussi dans ce livre, dans Perdre une connaissance, de mythes talmudiques de la connaissance qui existent aussi, où vous avez des destins de rabbins qui essayent de rentrer dans la connaissance et un devient fou, l'autre se tue, l'autre devient hérétique. Et le seul qui en ressort va finir en fait les chairs en lambeaux au marché de Jérusalem par les armées romaines parce qu'il veut diffuser la connaissance. Donc, quelles que soient les facettes, on trouve cette histoire de que la connaissance, c'est pour ça qu'on est en vie, en fait. C'est pour connaître. Ne pas connaître, ça n'a pas d'intérêt de, peut-être, d'être en vie. On peut en discuter. Mais en même temps, il faut savoir que la connaissance, ça véhicule beaucoup aussi de dangers existentiels. Et ça, je trouvais ça fascinant.
Et comment expliquez-vous cette mise en garde de la connaissance, contre la connaissance? Vantons la connaissance, vantons la culture, oui, le savoir, les, oui, lumières, mais pas trop.
Voilà, alors moi je crois, en tout cas ma position personnelle, c'est qu'il n'y a pas de limite à mettre à la recherche de la connaissance. Je suis
donc
pas...
pour vous signerez le pacte avec
le
Faust.
Le pacte avec Faust, voilà.
Vous le feriez?
Oui, je crois que je le ferais, mais à vrai dire, et on reviendra là-dessus, mais dans Thomas Mann, ce qui est génial, c'est que le diable n'existe pas. En fait, le diable, il est internalisé, c'est sous le soleil que ça se passe. Il n'y a pas de breloque un peu médiéval, de magie, de surnaturel. C'est naturel, en fait, de ce dont on parle. Mais alors, pourquoi d'abord, je n'ai pas répondu du coup avec ce long développement à votre question précédente, c'est que le mythe de Faust, pour moi, il s'inscrit là. C'est-à-dire qu'il vient reprendre depuis l'époque médiévale, cette histoire que la connaissance, c'est deux choses en même temps, quoi, en fait. Et que Faust, il veut connaître, mais ça aura un prix, cette connaissance, d'où le pacte avec le diable. Pour autant, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de limite à se donner à l'exercice de la connaissance, sauf une, c'est d'être lucide du chemin qu'on emprunte. Et pour le dire très vite, la façon de laquelle moi, je comprends ça, Et vous disiez, comment est-ce qu'on fait sens de ces lectures, etc. C'est que dans plusieurs ouvrages précédents, j'essayais de développer depuis le Nouvel Inconscient l'idée qu'en fait, on se promène de par le monde avec une sorte de cinéma intérieur, de représentation subjective du monde. Mmh. On peut une sorte d'équation X, voilà. Imaginons que X est votre système de croyance, de représentation du monde. Et que pour moi, la connaissance, c'est un truc, une définition très simple, c'est que vous allez avoir une collision entre vous, ce système X, et puis un Y, qui est une information de connaissance ou un support de connaissance, voire une personne, voire vous-même. Ensuite, on peut être. Donc imaginons une information. Et de cette collision entre le X et le Y, la vraie expérience de connaissance, c'est que vous allez devenir X'. Vous allez avoir une transformation de vous-même. Et qu'évidemment, la transformation, on pourrait dire, ça pourrait être pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Et que la connaissance, c'est ça. Et que souvent, pour plein de raisons, et on a raison d'ailleurs de le faire, on se bat pour l'accès aux Y. C'est-à-dire qu'avant tout, pour vivre une expérience de connaissance, il faut accéder à des Y.
Donc à des objets extérieurs de connaissance ou même à soi-même.
Exactement. Et du coup, on peut dire que la société de l'information, d'une certaine manière, en archi-résumé, c'est une sorte de solution à comment se donner les moyens d'accéder aux Y, d'apprendre à lire, de ne pas être analphabète, d'avoir moins de censure, moins de contrôle, de pouvoir accéder à mille et une sources d'informations, mais que souvent, comme on s'est battu, quand je dis « on », c'est pas un truc complotiste, c'est l'histoire de l'humanité, on s'est tellement battu collectivement pour cet accès aux Y que parfois on perd de vue que la connaissance, c'est pas uniquement l'accès aux Y, c'est cette expérience subjective. Et qu'elle, elle peut être évidemment source de transformation dans le roman de Thomas Mann et dans plein d'autres sources. Souvent, l'étape ultime de la connaissance, c'est de se rendre compte que nous faisons du sens des choses à partir de nos représentations mentales. Mais dès lors qu'on prend conscience de leur statut à elles, évidemment, le risque, on pourrait dire, c'est un risque de nihilisme, un risque de néant, en fait, de se dire, et c'est ce qui passe, en fait, la fin du roman de Thomas Mann, la mort d'Adrian Leverkun, c'est en fait la confrontation avec le néant de l'existence, en fait. C'est qu'il est mis en échec, il n'arrive plus, il y a le destin de son neveu, quoi. Il y a plein de... Sans faire de... Voilà,
de spoiler
sur cette série. mais en tout cas, c'est souvent ça. C'est en fait d'arriver à prendre conscience de la nature de nos représentations sans les confondre avec autre chose et être capable d'avancer. Donc voilà, moi, en tout cas, pour reprendre votre expression, je signerais le pacte, d'ailleurs, sans diable, tout seul. Mais qu'en fait, pour moi, c'est ça dont ça parle. Et que c'est pourquoi ce serait intéressant aujourd'hui de le lire, c'est qu'à plusieurs égards, je me souviens que je m'étais amusé, c'était un livre que j'avais publié en 2010, mais donc c'était 3 ans avant.
Perdons-nous
connaissance. En jouant sur la formule, perdons-nous connaissance. En plus, c'est un neurologue, est-ce que c'est un livre sur le coma. L'idée, c'est est-ce qu'on a perdu le fil de ce que c'est que la connaissance. Et je m'étais amusé dans mon entourage à dire aux gens, bon, qu'est-ce que tu penses de... Tu vois, alors évidemment, tout le monde est politiquement correct ou pas, mais tout le monde trouve ça génial, la connaissance. Je veux dire, tu envisages une...
Mais personne ne dirait, c'est nul de savoir.
Voilà. Oui, ou même dangereux. Est-ce que tu encours le moindre risque à connaître? Alors évidemment, tout le monde répond sur les risques, on pourrait dire, l'arme nucléaire, la manipulation du génome, des choses comme ça. Mais juste l'expérience subjective, soit avec soi, est-ce qu'on encourt le moindre risque à connaître? La plupart du temps, les gens ne voient pas. Ils disent, bon, c'est une sorte de posture un peu hystérique, la connaissance, en quoi ça pourrait être dangereux. Sauf qu'on a ces 3000 ans de culture. Donc le début du livre, c'était, il y a 3000 ans de culture qui vous disent, il y a deux choses. Aujourd'hui, on voit qu'une chose. Alors, est-ce qu'on a vraiment trouvé la solution et qu'on ne sait même plus comment? Ou est-ce qu'en fait, le problème existe toujours? Mais simplement, c'est pire, on ne voit même plus qu'il y a un problème.
Et en tant que neurologue, pourquoi cette question de la connaissance vous fascine? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau avec la connaissance? Parce que si j'ai bien compris comment vous avez découvert ce texte de Thomas Mann, Lionel Nakache, c'est que c'est pas un ami qui vous l'a passé,
non.
C'est pas un prof au lycée qui vous l'a suggéré, c'est que vous y êtes allé en connaissance de cause parce que vous travailliez déjà sur la connaissance à ce moment-là. Donc vous vouliez savoir déjà quelque chose sur la connaissance. Il y a toujours un thème qui nous porte, qui nous travaille.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous travaille en tant que neurologue sur la connaissance et donc sur cette dimension subversive et dangereuse de la connaissance?
Oui, c'est qu'en fait, la condition neurologique, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire le fait d'observer, d'essayer d'aider, de suivre des patients qui sont porteurs de lésions neurologiques. Alors, pas toute la neurologie, mais il y a certains tableaux en neurologie qui vont illustrer justement ce que c'est que cette connaissance. Ce XY' dont je parlais,
cette transformation du sujet à travers la connaissance.
Et tout ce qui va être un motif de résistance. Et aussi comment, en fait, je dirais que la condition neurologique, elle permet vraiment de mettre sous les yeux d'une manière inévitable le fait que nous produisons des significations subjectives à toute force. On ne peut pas s'en empêcher. Et alors, une façon de voir que nous produisons ça, c'est lorsque ces interprétations subjectives, elles sont tellement éloignées, si on veut parler comme ça, de la réalité. Elles sont tellement fictives, pas seulement fictionnelles, mais fictives, qu'on voit bien qu'elles sont une construction du sujet. Voilà. Je peux donner un exemple ou deux, mais par exemple, vous avez des patients qui, suite à un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère droit, vont avoir une hémiplégie donc de l'hémisphère, de l'hémicorps contralatéral, donc gauche, mais qui ne sont pas conscients, pour des, on appelle ça de l'anosognosie, donc ils ne sont pas conscients de leur déficit. Mais si ils sont confrontés, par exemple, à leur bras, eh bien, ils vont penser que c'est le bras de quelqu'un d'autre, par exemple. Mmh. Oliver Sacks, dans ses récits, en faisait état, etc. Et donc, vous allez voir quelqu'un, et je raconte dans ce livre aussi plusieurs scénarios cliniques, où on voit des patients qui, confrontés à quelque chose qu'ils ont du mal à appréhender, en fait, produisent quand même un sens. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que, confrontés à quelque situation qu'ils soient, nous continuons à produire des explications auxquelles nous tenons et qui font sens pour nous, qu'on a même du mal à critiquer. Et donc là, on est déjà dans la connaissance, en fait. On est déjà dans le fait.
Ah oui, ça, c'est de la connaissance de produire des explications.
Ah oui, je crois que oui. En tout cas, dans cette condition très générale, cette définition très générale de dire, voilà, la connaissance, c'est vous avez une sorte de système de représentation du monde et puis vous vivez quelque chose, donc avec des choses extérieures. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe toujours ça. Il se passe toujours une sorte de construction de sens. On pourrait donner, je sais pas si vous voulez, mais ça prendrait un peu de temps, mais des exemples, on a beaucoup d'exemples neurologiques.
Si, allez-y, oui, ça m'intéresse, que je comprenne bien.
Ouais, alors par exemple, vous avez des patients qui ont, donc on a deux hémisphères, on a un hémisphère avec lequel on produit du langage, je caricature un peu, mais c'est pas si faux, disons l'hémisphère gauche chez la plupart des gens, et en même temps, chacun des hémisphères est capable de pouvoir, de lire des mots écrits, par exemple si vous avez été à l'école, de lire des mots écrits isolés, des verbes, des mots d'action, les deux hémisphères, même celui qui ne va pas produire du langage est capable de lire. Et ensuite, il y a des patients qui ont une séparation des deux hémisphères. On appelle ça des patients split brain, le cerveau divisé, pour des raisons médicales. Et en fait, ces patients, du coup, un collègue qui s'appelle Gazzaniga avait beaucoup étudié dans les années 80, 90 ces patients. Je donne un exemple, mais il y en a des centaines différents. Le patient est face à un écran. Vous lui présentez, du coup, sur la gauche de l'écran, vous faites attention qu'il puisse pas tourner, bouger les yeux. Vous lui présentez, par exemple, le mot sortez. Sortez de la salle, quoi. Et puis ce mot, donc, il est présenté à gauche, donc il va être lu par l'hémisphère droit. L'hémisphère droit ne parle pas, mais est capable de comprendre ce mot et décide d'obéir à la consigne. Et au passage, on pourrait dire chaque hémisphère suffit pour être conscient. Donc ces sujets ont deux consciences sous une même tête, on pourrait dire, c'est patient split brain. Et l'hémisphère du coup de ce patient, l'hémisphère droit, lance le programme moteur. Le patient se lève et il va sortir de la salle. Et là, Gazzaniga interrompt la scène qu'il a mise en scène en fait, et puis fait mine d'être ingénu et demande au patient, mais écoutez monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de sortir. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que ce qui chez le patient va lui répondre avec une explication, et donc une explication verbale, c'est l'hémisphère gauche qui va produire son explication. Mmh. Sauf que Gazzaniga sait que l'hémisphère gauche n'a aucune raison, en fait, n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est en train de sortir, puisque c'est l'hémisphère droit qui a reçu l'information, qui a décidé d'obéir, mais sans communiquer avec l'hémisphère gauche. Et ce que vous voyez de manière vraiment quasiment systématique, c'est que dans ces cas-là, l'hémisphère gauche qui constate un comportement ne va pas vous dire, bah, écoutez, c'est intéressant, faisons de manière assez cartésienne, moi, je suis en train de sortir, pourquoi? Il pourrait y avoir... Non, personne ne va vous dire des trucs du style, écoutez, il faut que j'aille acheter un coca, je reviens, ou ma femme m'attend, il faut que je donne les clés de la voiture, et après je remonte. Je veux dire, les gens vont produire un discours. Et ce discours, c'est le sens qu'ils ont réussi à donner au monde à partir de leurs conditions. Et toute l'idée, c'est de se dire que ce que l'on observe chez des patients, c'est pas quelque chose qui est propre aux patients, mais c'est une sorte de vision qui est caricaturée, une sorte de caricature comme ça, qui amplifie une propriété de l'esprit qui existe chez vous et moi, en fait, chez tout le monde. Simplement, quand vos fictions épouse assez bien les contours du réel ou font sens, c'est plus difficile de voir cette couche de
fiction.
De fiction, voilà. Et qu'une fiction n'est pas nécessairement fictive. On peut avoir des fictions qui sont assez cohérentes avec la réalité, si on veut l'appeler comme ça, et donc qui vont même pas poser...
Parce que j'allais vous poser quand même la question de la vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cohérent avec la réalité, c'est-à-dire que finalement, on a une certaine explication du monde qui va coller avec le quotidien, avec le rapport aux autres, mais il y a aussi la question de la vérité, c'est-à-dire bien que sûr. Ça nous permet de nous en sortir, mais on se dit n'importe quoi.
Alors, plus ou moins n'importe quoi, on pourrait dire. Voilà. Et puis, il y a évidemment ça, plein de choses à dire là-dessus. Mais une des premières choses qui me semble chaque fois à la fois banale, mais très importante, c'est de ne pas oublier que ces fictions, elles font partie du monde. Et c'est ce qu'il y a dans le roman aussi, on va y revenir après, de Thomas Mann. C'est souvent, on a un peu le biais d'avoir l'impression, quand on réfléchit à cette question de la réalité ou de la vérité, c'est de mettre d'un côté ce que nous, on pense du monde et le monde. Mais ce qu'on pense du monde est dans le monde, en fait. On fait partie du monde. Donc ça rend le dispositif plus complexe. Et d'ailleurs, au nom de ces fictions, on va prendre des décisions, on va avoir des actions sociales, politiques, interpersonnelles. Donc elles font partie de la marge du monde, on pourrait dire.
Mais est-ce que le monde fait partie de nous et est une fiction à nous?
Ah non. non, je suis pas une sorte de Berkeley ou je suis pas voilà. Non, en tout cas, chacun ses positions. Mais je crois.
Mais si toute connaissance est une fiction, finalement, la connaissance qu'on a du monde serait aussi une fiction.
Ah oui, la connaissance que nous on a du monde est une fiction, mais ça veut pas dire que le statut ontologique du monde ne repose que sur nos fictions ou sur la somme des fictions. Qu'il peut y avoir autre chose aussi. Là-dessus, de manière très pragmatique, là aussi, c'est inspiré par la neurologie, mais aussi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des historiens. Mmh. Un historien qui est confronté à des manuscrits, des textes, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille, etc. Mmh. Eh bien, toute la question de l'historiographie, c'est comment faire la part entre cette réalité de ce qui s'est passé à un moment donné et puis tout ce qui va pouvoir être rajouté ou inventé.
En faire le récit, l'expliquer.
Fictionnaliser, voilà, pour mille raisons, politiques, subjectives, religieuses. Et en fait, il y a des gens comme Carlo Ginzburg, l'historien, qui avait proposé ce qu'il appelle le paradigme indiciaire, de dire en fait, c'est comme on doit être comme des chasseurs qui poursuivent des petites traces et de se dire, eh bien, dans un matériau. De pisteur. Et dans un matériau, il y a des traces qui nous parlent de ce qui s'est passé et qui nous parlent de la manière de laquelle ce qui s'est passé a été aussi construit. Et c'est la même chose dans le récit subjectif des patients ou de chacun d'entre nous. Mais
eh ben on va rentrer dans le récit de Adriaan Leverkühn, le héros de Thomas Mann.
Assis seul dans cette salle, près des fenêtres aux persiennes closes, je lisais à la lueur de ma lampe l'essai de Kierkegaard sur le Don Juan de Mozart, et devant moi la pièce se déployait dans toute sa longueur. Et voici, tout à coup, je me sens saisi d'un froid cinglant, comme en hiver lorsqu'on est dans une chambre chauffée et que soudain une fenêtre s'ouvre sur le gel du dehors. Mais ce froid ne souffle pas de derrière moi, du côté des fenêtres, il m'assaille par devant. Je lève les yeux, regarde dans la salle et m'aperçois que Schiltnap a dû revenir car je ne suis plus seul. Quelqu'un est assis dans la pénombre, sur le sofa de crin placé près de la porte, comme la table du petit déjeuner et les chaises, à peu près au milieu de la pièce. Il est assis au coin du sofa, les jambes croisées. Mais ce n'est pas Schiltnap. C'est un autre, plus petit, très loin d'avoir sa prestance et en somme, pas un vrai monsieur. Cependant, le froid continue de me pénétrer. « Qui est Costa ?» m'écriai-je, la gorge vaguement nouée, dressée et appuyée des mains aux accoudoirs de mon fauteuil, en sorte que le livre me tombe des genoux et roule à terre. Me répond la voix calme et lente de l'autre, une voix comme étudiée, agréablement nasillarde.
« Ne parle qu'allemand. Parle donc le bon vieil allemand, sans palliatif, ni guirlande. Je comprends cet idiome. C'est précisément ma langue préférée. Il y a mesme des moments où je ne comprends que l'allemand. Au surplus, va quérir ton manteau et aussi ton chapeau et un plaid. Tu vas geler et grelotter, même si tu ne prends pas du mal. »
« Qui donc me tutoie ? » demandai-je avec emportement.
« Moi ? Moi ? Ne t'en déplaise. Ah ! Tu t'étonnes, parce que tu ne tutoies personne, pas même ton bouffon, le gentleman ? Sauf le camarade de jeu de ton enfance, le féal qui t'appelle par ton nom de baptême, d'ailleurs sans réciprocité. Laisse donc. Entre nous, nous avons déjà contracté des liens autorisant le tutoiement. D'accord ? Vas-tu chercher quelque chose de chaud ?
Extrait du docteur Faustus de Thomas Mann, paru en 1947, lu ici par Nicolas Berger et Anaïs Isbert. C'est vous, Lionel Nakache, qui nous avez indiqué cet extrait. Alors cet extrait, il est un petit peu différent du reste du livre, puisqu'on est vraiment au cœur du livre. Normalement, c'est son ami, je le répète, qui est le narrateur Sérénus. Mais là, Sérénus a trouvé un manuscrit d'Adriaan, qui est donc ce héros, ce musicien en quête de musique absolue. Il veut réaliser, composer la musique parfaite et il a donc rencontré le diable. Il le raconte dans ce manuscrit. La première personne, c'est lui qui parle. Pourquoi ce texte-là en particulier, où il détecte cette présence un petit peu étrange ?
Parce qu'en fait, et là, ça, c'est aussi la condition de lecteur neurologue, c'est qu'en fait, on le verra par la suite, mais Thomas Mann va naturaliser, comme je vous le disais, le mythe de Faust. Et en fait, si vous avez une lecture clinique, vous avez donc Adriaan Leverkühn qui est assis, là, et puis qui est d'abord gagné par une sensation de froid, Donc il y a une sorte de composante presque végétative, thermique, une sensation de froid qui, je ne sais pas d'où il vient, et qui est vite complétée par une hallucination visuelle. Et dans les hallucinations visuelles, on est entraîné en fait à distinguer différentes formes. Des personnes, vous pouvez halluciner un triangle, une barre, un contraste, mais là non. Il s'agit de ce qu'on appelle une hallucination visuelle très élaborée. Ce sont des personnages identifiés, un homme habillé, un sofa. Donc on voit, même en décryptant les réseaux cérébraux, on est plutôt dans la face inférieure du lobe temporal. On a une face temporale interne avec des aspects végétatifs, thermiques. Et puis ça va être complété par une hallucination acoustico-verbale où il va y avoir un échange, il va entendre la voix. Et donc là, évidemment, cette scène-là, en fait, on le saura par la suite, c'est une crise d'épilepsie, en fait, de Adrian Leverkun. Et une crise d'épilepsie qui, dans laquelle, initialement, le patient reste conscient et a ce qu'on appelle une aura, A-U-R-A. Une aura, donc c'est en fait, l'individu reste conscient, mais le phénomène de la crise épileptique va décharger dans différents réseaux. Et le sujet étant encore conscient, les perturbations engendrées par cette crise vont donner lieu à des états subjectifs très particuliers. Notamment, comme ici, hallucinatoires, mais pas que. Voilà. Et donc, il y a évidemment, pour moi, c'est l'élément principal, c'est que ce que je trouve génial chez Thomas Mann, comme on le disait, c'est que il va faire de Faust une histoire naturelle.
Moi, ce que je trouve fascinant, c'est la manière dont vous lisez cette scène. C'est-à-dire que par un seul moment, je ne me suis dit, je pense, le huitième.
Mais c'est normal.
De ce que vous êtes dit. C'est-à-dire, je n'ai même pas pensé à hallucinations végétatives, acoustico, etc.
Mais c'est l'intérêt. On a chacun des paires de lunettes.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et donc, cette paire de lunettes-là. Et puis aussi, parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce passage. Et parce que là, vous voyez ça dans une fiction. On peut avoir plein de choses, plus ou moins. Mm. Mais dans la suite, parce qu'effectivement, la suite du texte de Thomas Mann. Ensuite, à la fin, Adrian Leverkun va perdre connaissance, il ne saura pas. Mais surtout, on a la clé du phénomène, c'est qu'en fait, on peut un peu là aussi spoiler, on pourrait y revenir, c'est qu'en fait, dans la façon de laquelle Thomas Mann s'est débrouillé pour naturaliser le diable, on pourrait dire, et en faire une crise d'épilepsie, une hallucination d'une crise d'épilepsie, c'est qu'en fait, on est en fait fin 19e, début 20e siècle, en fait, il y a une maladie qui va toucher beaucoup en Europe, ce qu'on appelle la syphilis, et dans la syphilis...
Que Adrian contracte
avec une dimension très romantique, un peu post. Il y a eu beaucoup de titres. C'est aussi ça qui est fascinant. Le mythe faustien. Au début, il y a pas de romance, on pourrait dire. Et puis ça va être introduit par Goethe, je crois, le premier, vraiment avec Marguerite, etc. Ensuite, même Bulgakov le refera. Et Thomas Mann, du coup, il n'y manque pas. Il injecte aussi. Il y a Esmeralda, qui est un personnage féminin. Et donc, il va contracter la syphilis, qui en plus permet de faire une condition.
Qui est une prostituée qu'il rencontre dans un bordel.
En fait, une prostituée qu'il rencontre alors qu'il ne voulait pas s'y rendre. En fait, il arrive. Il est très jeune, il va à Leipzig, je crois, pour un concert, et puis il cherche à ce qu'on l'amène dans une auberge, et il décrit une sorte de guide qu'il rencontre dans la rue, et qui, en fait, un peu curieux, et en fait, qui l'emmène dans un bordel, et donc lui, quand il comprend ça, il s'enfuit, mais cette rencontre a suffi à déclencher une sorte de, presque de passion, et donc ensuite, il va la revisiter, le roman, donc Thomas Mann passe beaucoup de passages aussi pour voir comment il la retrouve, et finalement, il va contracter auprès d'elle la syphilis, en toute connaissance de cause,
en le sachant.
Donc oui. Là, on arrive sur la dimension aussi, un peu double facette de la connaissance, et puis Eros, Thanatos, un peu ce dont on parlait. Mais le point ici intéressant, c'est que la syphilis va donner différents stades de la maladie, un stade primaire, le chancre syphilitique, des lésions cutanées, etc. Mais en fait, chez certains patients, si ce n'est pas traité, à l'époque, il n'y avait pas de traitement efficace, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle la syphilis tertiaire, qu'on appelait aussi la paralysie générale, qui en gros, c'est l'atteinte du système nerveux central, et qui va donner plusieurs troubles, souvent psychiatriques, d'allure psychiatrique ou neurologiques centraux. Et c'est ce qui se passe, et qu'en fait, du coup, la manière de laquelle Thomas Mann se débrouille pour naturaliser le diable, c'est à travers la syphilis, et qu'en fait, une conséquence cérébrale, et dont le personnage aura parfaitement conscience. Et à nouveau, vous voyez, moi, ce qui m'a beaucoup plu là, c'est que vous prenez ce mythe de la connaissance. Chez Icare, ben, il meurt parce que, en fait, il y a eu un processus physico-chimique, quoi. Il y a eu la cire a fondu à cause de la température parce qu'il se rapprochait du soleil et donc il tombe, la gravité, il tombe et il meurt. Donc, en fait, on a quelque chose qui est entièrement sous la puissance des lois de la nature, on pourrait dire. Et puis, quand on va vers le Moyen-Âge, on arrive dans des breloques un peu de magie, de surnaturel, qui souvent surprennent les gens. Mais en fait, c'est extrêmement pauvre parce que ça vient sortir du monde, cette thématique-là. Et ce que je trouve chez Thomas Mann, c'est la force de revenir à la source antique. Et c'est ça que je trouve extrêmement, extrêmement bien traité chez lui. Voilà. Donc, d'où cette scène qui permet d'avoir la signature neurologique aussi. Voilà.
Mais on va peut-être écouter d'ailleurs la suite de la scène, parce qu'on les écoute de manière assez proche, parce qu'effectivement, c'est là où on a vraiment ce retour avec la source interne.
Absolument.
Du mal.
Qu'avez-vous fait de mes deux médecins ?
Balayer ! Oh !
Bien entendu, nous avons balayé ces bousilleurs dans ton intérêt. Dès que leur traitement spécifique a convenablement circonscrit la première infiltration générale cutanée, donnant ainsi une vigoureuse impulsion à la métastase vers les parties supérieures, leur besogne était achevée. Il fallait les supprimer. Ces nigauds ne savent pas, et du reste, s'ils le savaient, ils n'y pourraient quand même rien changer, que le traitement général accélère le processus métavénérien supérieur. D'ailleurs, souvent l'absence de traitement l'accélère également. Bref, quoi qu'on fasse, on a tout. En aucun cas nous ne devons souffrir que se prolonge le défi charlatanesque du mercure et des piqûres. Il nous fallait laisser la pénétration générale marquer d'elle-même un recul, afin que la progression du haut s'accomplisse tout doucement, joliment, pour que te soient accordées des années, des décennies de beau temps nigromant, toute une heure de sablier pleine d'une géniale durée diabolique. Aujourd'hui, chez toi, 4 ans après la contamination, le point sensible est circonscrit, étroit et fin là-haut, mais il existe le foyer, le laboratoire des infiniment petits qui sont parvenus là par la voie de la liqueur, la voie fluviale pour ainsi dire, le point de l'illumination incipiente.
Ah, je t'y prends, idiot! Tu te trahis et tu m'indiques toi-même le point de mon cerveau, le foyer fébrile qui crée l'hallucination de ta présence et sans lequel tu ne serais pas. Tu trahis ainsi que dans mon trouble, si je te vois et t'entends, il est vrai, tu n'es pourtant qu'un fantasme devant mes yeux.
Suite de la rencontre d'Adrienne Leverkun avec le diable, qui n'est donc pas un diable extérieur à lui-même, mais qui est lui-même, on l'entend bien dans ce texte, sur une musique, je le précise, de Schoenberg.
Absolument. Ouais.
Puisque vous l'avez souligné, Lionel Nakache, quand on a préparé cette émission, quand Thomas Mann a écrit ce livre, il était en exil aux États-Unis, on était dans les années 40, et son voisin était Schoenberg. Donc ce musicien fou, en tout cas en quête d'absolu, c'était Schoenberg.
Oui, c'est absolument. Et du coup, j'ai bien aimé que entre les deux, on passe du Don Juan à Schoenberg, voilà, et de la musique tonale à la musique atonale, et qu'effectivement, Thomas Mann a décidé de projeter son traitement de fausse sur un artiste, sur un musicien, et en faisant le créateur de cette musique dodécaphonique, là, cette musique atonale, où en fin de compte, on brise ce qui a été le système tonal musical européen, occidental notamment, et en combinant aussi, on dit souvent qu'il combine que c'est une sorte de. Avec Nietzsche, qu'en fait, il y a du Nietzsche et il y a du Schoenberg. Et d'ailleurs, il a dû en rendre compte un peu après de son voisin, donc c'était un voisin, je ne sais pas si c'était un quartier de Los Angeles, je ne sais pas si c'est Pacific Palisades, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais il faut les imaginer chacun avec leur villa à côté pendant la guerre.
On imagine qu'il y avait peut-être Adorno dans le coin aussi, qui était en exil aussi en Californie.
Absolument, et donc du coup, et en l'écoutant, à la fois je trouve c'est génial de le refaire lire, voilà, pour le coup, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une lecture silencieuse, mais on voit bien aussi tout ce qu'il peut avoir comme obstacle de lecture, c'est une lecture qui est un peu pesante, un peu surannée, un vocabulaire, un lexique qui ne serait peut-être pas utilisé aujourd'hui.
Il y a quelque chose quand même de l'ordre du suspect. Parce que quand on est à ces pages, on comprend enfin ce qui s'est passé,
Exactement. Mais
on est aussi à la fois déçu que ce ne soit pas une manifestation extérieure et en même temps encore plus terrorisé, je crois.
Ouais.
C'est-à-dire que de se dire que le mal est en soi, parce que c'est présenté comme un mal.
Ouais.
Et là, on l'entend bien. Vous avez insisté, Lionel Nakache, sur le fait que Thomas Mann va neurologiser, naturaliser le mal. C'est pas une croyance judéo-chrétienne, c'est pas magique, c'est vraiment, ça vient en nous. Presque, ça nous met dans un état d'étrangeté à soi-même.
Absolument, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je trouve que lorsque c'est réussi, ce sont des effets qui sont, à mon sens, beaucoup plus puissants que l'appel au surnaturel. Parce qu'effectivement, ça parle directement d'une condition qui n'est pas à chercher ailleurs, qui est la nôtre, en fait. Et c'est une sorte de pas de côté qui vous fait voir les choses de manière, comme vous le disiez, de manière assez terrifiante. Et assez, donc voilà, ça, je trouvais que c'était... Et comme vous le dites, ça n'arrive pas tout de suite dans le roman d'arriver à comprendre comment est-ce que Thomas Mann va se débrouiller avec Méphistophélès, quelle nature, quelle évidence il va lui donner. Mais voilà, mais en même temps, je trouve vraiment que, je me disais, j'y mettais à la place des auditeurs, des auditrices, mais quand je recherchais ce passage, j'ai même retéléchargé le livre, j'ai fait des contrôles pour le chercher parce que c'était j'avais quelques mots clés et en fait ce texte qui était d'ailleurs censé être un peu comme Max Brod avec Kafka, normalement il devait pas le publier en fait, Zeblom, il devait le détruire, mais
il l'a gardé
ou en tout cas Thomas Mann et en fait ce texte c'est un texte qui fait 40 pages, qui est extrêmement long, qui est et même en l'écoutant là il y a tout un ensemble de choses qui seraient, on peut imaginer une sorte de résistance à la lecture. On n'est pas dans quelque chose qui va c'est pas du easy going de lecture. Et ça, voilà, on pourrait y revenir, mais c'est un des talents que je lui reconnais aussi, je trouve. C'est non pas un culte de l'effort ou de l'ennui, mais j'ai l'impression, c'est comme ça que je le lis, parce que Thomas Mann aussi, par exemple, dans La Montagne Magique, il s'est pris, cette fois-ci, c'est pas la syphilis, mais la tuberculose. Et ce qui fait de la tuberculose est absolument génial, et même à relire aujourd'hui, et vous parlez des chroniques que j'avais publiées, qui est en fait ces sujets études-là, le sujet de mes chroniques de l'année dernière. Et en fait, c'est encore très contemporain quand on parle de la neuroimagerie, par exemple. Il traite de la radiologie, d'imaginer au début du XXe siècle que dès qu'on a de la radiologie, on peut voir de son vivant son propre squelette. Et donc il y a des pages de Thomas Mann qui sont incroyables sur la transparence à soi de la médecine moderne, contemporaine, technologique. Donc voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en fait, je trouve que dans le traitement que Thomas Mann fait des choses, l'aspect, on pourrait dire entre guillemets, si je me permets, un peu chiant parfois de la lecture de Thomas Mann, je ne suis pas idéologue, je ne cherche pas à le défendre à tout, mais ce que j'aime bien, c'est que je trouve que la réalité dans laquelle nous vivons, notre existence, j'aime bien en fait quand la réalité vous renvoie des résistances à votre façon de la mettre en scène ou de la scénariser ou d'en faire une... On disait, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter les choses. Donc tout ce qui va en fait permettre de sentir les résistances du réel à votre capacité à la mettre en scène pour en finir par un récit très réduit en fait, eh bien ça, j'aime bien le lire. Donc j'aime bien des écrivains dont la lecture provoque justement ce sentiment de... En fin de compte, c'est pas que le texte est juste embêtant, c'est qu'en fait... Il parle de la manière de laquelle essayer de vraiment faire sens de la manière la plus honnête et la plus riche possible de l'existence, eh ben c'est pas simple en fait. Et si c'est pas simple, ça veut dire qu'il y aura des passages qui vont être chiants, il y aura de l'ennui, il y aura des... Et j'aime bien sentir ça dans une lecture, voilà.
Moi, je me pose une question sur le statut de la maladie d'Adrian Leverkühn, parce que, vous l'avez très bien dit, il naturalise le pacte faustien, ça vient pas de quelqu'un d'extérieur, ça vient de soi. Mais qu'est-ce que c'est en soi? Parce que, est-ce que c'est la maladie qui vient réveiller quelque chose qui était déjà là, c'est-à-dire une soif de connaissance, une soif dans différents mythes de faux, ça peut être la soif de plaisir, la soif de pouvoir, là c'est la soif de connaissance musicale et d'une certaine manière de détenir presque le secret de la musique. Alors est-ce qu'il réveille une soif latente ou est-ce qu'il vient la générer, la créer? Parce que là, ça mettrait presque le sujet aussi en dissociation avec lui-même, si c'est la maladie le problème.
Vous avez raison, mais je crois qu'il y a une partie de votre question à laquelle on peut répondre de manière assez univoque, je pense. C'est que dans le roman, en fait, la passion et le génie de Leverkühn pour la musique, ça précède sa maladie, en fait. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut dater, en fait. Dans le roman, on sait à quel moment il tombe malade, en fait. Et en fait, auparavant, c'est déjà en fait, un compositeur génial qui cherche à toute force. Donc son désir de connaissance, pour moi, il est antérieur à cette maladie. Et donc je pense que Thomas Mann, du coup là, ça devient la deuxième partie de ma réponse, est plus hypothétique, mais je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il a utilisé le modèle de la maladie, peut-être trois. La première, c'est que je crois effectivement qu'il cherchait à naturaliser les choses. Et une fois de plus, je trouve ça génial de revenir, ça donne toute sa force. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'on l'entendait dans votre archive initiale, évidemment, c'est la crise de la culture européenne, etc., les deux guerres mondiales. La Montagne Magique, ça se finit en fait quand le personnage qui est Hans Castorp finit, en fait, redescend. Eh bien, c'est la Première Guerre mondiale qui commence. Et on ne sait pas ce qui va lui arriver, en fait, comme à toute l'Europe. Donc, il y a les deux conflits mondiaux, etc. Donc, je pense que le modèle de la maladie, c'est pour parler de cette notion de crise de la culture, en fait, qu'on entendait dans l'archive. Donc, ça fait au moins deux raisons d'avoir choisi la maladie. Et puis, la troisième, je crois, voilà, c'est ça qui est sympa, c'est aussi de voir des écrivains qui se frottent à ce qui se passe aujourd'hui, et aussi dans des univers qui ne sont pas les leurs. Donc, on pourrait dire aujourd'hui de l'IA, des neurosciences ou autre chose. C'est d'arriver à aller suffisamment loin dans la maîtrise de ce qui se passe là, pour en produire une œuvre romanesque qui n'est pas non plus simplement une sorte de copier-coller un peu édulcoré de ce qui se passe dans les laboratoires, mais qui est une vraie élaboration. Donc je vois ces trois raisons.
Mais vous faites presque une contre-lecture, Lionel Nakache, d'Adrienne Leverkühn, parce qu'on voit bien qu'au moment où il écrit Thomas Mann, et vous l'avez dit, la crise de la culture, il y a l'Allemagne nazie, en fait, il est en exil. En fait, Adrienne, c'est aussi cette Allemagne-là, c'est-à-dire qui, à force d'embrasser un idéal de savoir, d'exemplarité, de rationalité, va faire un pacte avec le mal. Et en même temps, dans votre lecture, Adrienne devient presque un personnage désirable, dans la mesure où, en fait, lui accepte d'embrasser son désir de connaissance avec tous les risques que ça comporte.
Alors, je ne sais pas si je vous suivrai là, parce que, je vous dis à nouveau, moi je vois ça presque comme un peu comme quand vous écrivez une histoire, de trouver une sorte de ressort narratif qui va vous permettre de satisfaire les contraintes que vous cherchez. Et si on prend les contraintes de naturalisation du problème, de ne pas faire appel à une carte joker, et deuxièmement, de pouvoir aussi parler de la gravité de la situation, on peut avoir cette première grille de lecture où, en fin de compte, ce moteur de connaissance, il précède cette condition. Donc c'est peut-être là où je mettrais, d'ailleurs c'est ma différence, c'est que, et je ne suis pas sûr du tout que Thomas Mann voulait dire ça, mais je ne vois pas la condition d'être connaissance comme être une condition mortifère, nécessairement. Qu'en connaissant, on encourt des risques, ça j'en suis persuadé, mais qu'au contraire, je suis vraiment, si je dois me faire l'avocat de quelque chose, c'est de se donner les moyens de courir les risques de ce danger, et pas d'en faire une histoire qui est nécessairement avec le néant, la folie ou la mort au bout du chemin, je crois pas. Mais là,
on a l'impression quand même, le mythe de Faust persiste même quand même avec Thomas Mann.
Ah oui, il persiste, mais je crois que c'était...
Il meurt, il est quand même isolé, quand il raconte à ses amis, à la fin, Adrienne Leverkühn, ce qui lui est arrivé. Ils le prennent pour un fou, ils le désignent comme coupable, mais en fait, pas coupable d'avoir contracté une maladie, mais coupable en fait d'un désir de connaître la musique, mais de connaître aussi Esmeralda, c'est-à-dire de la posséder pleinement, même d'avoir couché avec elle en connaissance de cause. C'est comme si lui-même voulait embrasser aussi, connaître ce que c'était l'état.
C'est vrai, vous avez raison. Alors moi, mon décryptage de ces scènes-là, notamment cette scène finale qui est folle, qui est très émouvante, c'est, on revenait à cette dimension au début, les dangers de la connaissance vis-à-vis de soi-même, et aussi la notion sociale. La mise à mort dans la caverne, si vous voulez libérer des gens, la mort de Socrate, etc. Et en fait, je le voyais ça comme une scène qu'il construit, en fait, le personnage, qui il aura en fait à la fois la damnation de Faust, si on veut dire, et la condamnation de la société de son époque, de la société bourgeoise de son époque, les 30 personnes qui vont les unes après les autres sortir en... On voit presque à chaque fois une sorte de vote coupable, en fait. Oui. Voilà. Donc moi, je le voyais sous cet angle-là. Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça que je trouve génial. C'est que moi, ce n'est pas une lecture univoque. Et chacun peut y aller de sa lecture, vous vous en emparez. Et du coup, on ne le voit pas exactement de la même manière. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est la façon de laquelle, si on revient à ce XY exprime, on tombe sur ce livre. Et puis on voit ce qui se passe en nous quand on le lit, ce qu'on fait, comment ces idées vont pouvoir nous toucher, nous faire réfléchir. Donc je crois que c'était une lecture ouverte.
Et cette équation XY X', vous l'avez retravaillée ensuite, Lionel Nakache, avec un autre texte. Alors là, c'est une toute autre ambiance que celle de Thomas Mann, mais on voulait écouter un extrait des Femmes savantes.
Et qu'est-ce qu'à mon âge, on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous ? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie ? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts ?
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas. Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple, à vos yeux que du nom de savante en honneur en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave, asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale.
Extrait des Femmes savantes de Molière, 1672. On a donc une toute autre interprétation de la connaissance ici, puisqu'avec ces deux personnages, Henriette et Armande, Henriette, elle, désirant, on va dire, la sexualité, l'union avec un homme, alors que Armand lui dit qu'il vaut mieux se marier avec la philosophie. On a deux rapports différents à la connaissance. L'une qui le rejette, l'autre qui dit qu'il faut l'embrasser. Alors, Armande et Adrienne Leverkühn de Thomas Mann, finalement, c'est le même personnage.
Ben, c'est, en fait, c'est ce que ça m'a inspiré, effectivement. Et je suis très touché que vous ayez passé, parce qu'en fait, c'est cette scène-là, c'est la scène d'ouverture des Femmes savantes. C'est la première scène, c'est Henriette et
Armande. Acte 1, scène 1.
Acte 1, scène 1, voilà. Et je me souviens très bien... On était en famille, on le voyait, et en fait, immédiatement, cette idée en fait, m'est apparue, presque 10 ans après ou 15 ans après, perdons nos connaissances, et c'est qu'en fait, Molière, et on peut lire Les Femmes savantes comme ça, et j'ai écrit un qui s'appelle Nous sommes tous des femmes savantes, en fait, il nous met une sorte d'équation sous les yeux qui est que vivre l'expérience de la connaissance et l'expérience de la sexualité de manière épanouie, les 10 personnages de sa pièce échouent, en fait, pour des raisons différentes. Et que je trouvais que ça parlait, en fait, d'une sorte de mise en relation, de la proximité entre ces deux notions. C'est-à-dire que la connaissance sexuelle, si on veut l'appeler comme ça, et la connaissance plus habituelle, en fait, nous parle d'une même expérience, en fait, qui est quelque chose de très proche. Et alors, sans être dans une vision bibliste, mais vous savez que la première occurrence du verbe « connaître » dans la Bible, dans la Torah, dans Bereshit, c'est le verbe « ladat » en hébreu, ce qui veut dire « connaître », mais qui est utilisé pour viser la connaissance amoureuse entre Adam et Ève. Donc en fait, la convergence entre la connaissance sexuelle et la connaissance tout court, ça parle d'une même forme d'expérience. Évidemment, c'est une idée qui est vieille comme la nuit des temps. Et je trouve que Molière, en fait, c'est sans doute la pièce, et d'ailleurs c'est celle sur laquelle il a travaillé depuis, il a passé le plus de temps. C'est quelque chose d'absolument profond, qui est une sorte non pas seulement de comédie, mais de tragicomédie en fait, je crois, où il nous met la détresse de la condition humaine qui, en essayant de résoudre les deux questions, a souvent du mal en fait. Et donc, effectivement, c'est après Leverkühn, comme vous le disiez, et du coup on retrouve le personnage Esmeralda Leverkühn, héros Thanatos, la dimension aussi amoureuse de la connaissance, et aussi tout ce qui, dans ce livre, en fait, c'était de se dire... un peu la suite de ça, c'est qu'une façon de s'empêcher d'éprouver les blessures de la connaissance potentielle, les risques, c'est en fait d'essayer de vivre la connaissance mais sans se laisser transformer. En gros, vous faites un X, Y, X. Et que cette carapace que vous forgez autour de vous, ben dans la connaissance classique, c'est toute l'érudition stérile, les gens qui vont parler de plein de choses, mais en fait, ça leur bouge rien, quoi. Mmh. Et puis, on peut dire, ça nous bouge, hein, je veux dire, c'est, je sais pas pour critiquer des gens, mais cette posture, elle existe, en fait. Et qu'on pourrait dire qu'une certaine lecture de la sexualité contemporaine, une fois qu'on a résolu la question de Y, l'accès aux Y, qu'on fait tomber les difficultés et tout le monde s'en réjouit, et ça commence aux Lumières, ça commence au salon du 17e, etc., une des carapaces, on pourrait dire qu'il y a une version carapace de la sexualité qui dit, là aussi, la notion de pénétration, je ne parle pas de la science uniquement des corps, mais simplement entre deux individualités, et que du coup, la carapace subjective, elle peut exister pour le rapport à la connaissance et pour le rapport à la sexualité. Et je crois que la pièce de Molière parle de ça. Et qu'en fait, il nous montre que des gens qui veulent arriver à vivre avec des tours de passe-passe et que vous faites semblant, vous sublimez d'un domaine dans l'autre, etc., Il y a une scène dans Les Femmes savantes, il y a deux scènes de Molière, avec le personnage de Trissotin, vous vous souvenez, qui est une sorte de curé qui est fasciné par le grec, là, qui est une sorte de symbole de connaissance, mais qui est en fait totalement qui est carapacé, qui n'a aucune vraie expérience de connaissance. Et Molière fait une sorte de travestissement sexuel du rapport des savantes avec Trissotin, qui est en même temps complètement un personnage complètement désexualisé, on pourrait dire, mais il y a une scène où vous les entendez pousser des cris « Ah, il parle le grec !» etc. Et donc, je crois vraiment que Molière... pas s'amuse, mais prend très au sérieux cette condition humaine, et on retourne sur la connaissance, et voilà, et sur Leverkühn aussi. Ouais.
Mais est-ce que vous pensez véritablement, Lionel Nakache, que c'est impossible qu'une connaissance ne produise rien ? C'est-à-dire vraiment, vous parliez au Moyen-Âge de la transformation, du Moyen-Âge à aujourd'hui, de la transformation qu'on a dans notre rapport à la connaissance, c'est-à-dire qu'on pouvait la condamner à travers le mythe de Faust, en se disant, regardez, vouloir détenir les secrets de l'existence du monde, de l'univers, c'est dangereux, vous allez mourir, c'est un pacte avec le diable. Maintenant, c'est oui, vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais sous forme d'information, mais qui ne vous change pas. Est-ce que c'est vraiment possible que la connaissance ne nous bouge jamais ? C'est-à-dire que même si là, par exemple, je lis quelque chose, d'une certaine manière, ça percute pas consciemment, mais quand même, ça peut modifier.
Ah oui, alors
sans que je le sache.
Oui, ça peut me dire. Attention, je fais pas une critique de l'époque actuelle. C'est un décryptage, et évidemment qu'aujourd'hui.
Non, mais la question se pose surtout par rapport à un moment où on parle beaucoup d'un surplus d'informations, de
oui,
fatigue informationnelle. On dit qu'on a trop d'informations, mais on n'en fait rien.
Oui, parce qu'en fait, un des points qui est très important, c'est que pour vivre cette notion de connaissance et de transformation subjective, il faut du temps, en fait. Donc, pour le coup, il faut se laisser pénétrer par l'information. C'est la condition sine qua non, mais ensuite il faut un temps. Quand vous lisez quelque chose, il y a à peu près 3 dixièmes de seconde avant d'en prendre conscience. Avant, il se passe plein de choses intelligentes et très élaborées, mais qui ne sont pas conscientes au sens classique du terme, pas nécessairement analytique. Et vous en prenez conscience vers 3 dixièmes de seconde. Et là, en fait, vous avez une première interprétation. Les choses, je ne sais pas, je vois quelque chose, je vois une bouteille là. Je ne me suis pas dit quel est cet oblongue objet. Ah, c'est peut-être. Non, ça s'est arrivé tout empaqueté comme étant une bouteille. Mais une fois que vous en prenez conscience, libre à vous de pouvoir vous laisser transformer, élaborer, voir comment ça va répercuter avec vos autres pensées. Donc, cette expérience de connaissance, elle demande du temps. Et si, par contre, vous passez sur un scrolling infini à un autre contenu, eh bien, vous n'aurez pas laissé cette... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas survenir. Ça peut revenir dans votre mémoire, etc. Mais qu'en tout cas, il y a cette équation du temps à résoudre. Et une fois de plus, moi, je ne suis pas du tout pour supprimer la société numérique. Je ne suis pas... simplement d'être conscient qu'il y a un temps à protéger. Voilà. Et que...
Mais est-ce qu'on peut le générer aussi? Est-ce qu'on peut générer, décider de cette transformation? Parce que dans le livre de Thomas Mann, Adrian Leverkun, et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu le comme c'est un récit fait par son ami d'enfance, lui-même est pris dans des illusions rétrospectives en se disant déjà avant son pacte faustien, il était bizarre, il était très brillant, il avait un rapport un peu orgueilleux à la connaissance, donc lui-même tombe là-dedans. On dirait qu'il est né comme ça.
Ouais.
Il est très brillant, très intelligent. Est-ce qu'on peut décider d'être très brillant, très intelligent, et d'avoir cette soif de connaissance qui nous dépasse?
Ah, c'est une belle question, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, parce que à nouveau, c'est un peu là, on revient sur les aspects neurologiques, c'est que notre capacité à produire des interprétations causales sur ce qui nous arrive, autrement dit, pour quelle raison j'ai fait telle ou telle chose,
il y a
plein de choses où on n'est pas très bon. Donc en fait, c'est difficile de répondre, de savoir pourquoi on fait les choses.
Oui, et puis une vraie question, je ne sais pas si vous avez la réponse aussi, pourquoi on aime telle chose ou telle autre?
Je n'ai pas la réponse.
Ah bon? Ah, c'est dommage.
Vous êtes déçus.
Oui, je suis déçue.
Mais je n'ai pas la réponse parce que d'abord, je crois qu'il y a une multiplicité de choses et qu'il y a... Il y a vraiment des phénomènes qui vont pouvoir se jouer. Là, on revient sur cette complexité du monde, en fait. Et tout ce qui va la réduire d'une manière un peu ridicule. Et là aussi, on pourrait dire parfois une sorte de caricature de psychanalyse ou de psychanalyse caricaturale, ça existe aussi. Mais il n'y a pas que la psychanalyse. Dès qu'on fait de la vie un conte pour enfants, en tout cas, un conte pour enfants au sens caricatural, péjoratif, parce qu'il y a des contes pour enfants qui injectent de la complexité, ou de, bien, c'est toujours appauvrissant, voilà. Et donc je ne sais pas répondre parce que c'est compliqué.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la singularité d'Adrian Leverkun, on ne pourrait pas dire si elle tient en fait au milieu dans lequel il est né, dans rencontres qu'il a fait.
Ouais. Et puis,
on ne peut pas décider d'être un génie.
Ah non, bien sûr que non. Ah non, si c'est ça la question, non. Non. Et c'est intéressant parce que là, c'est on n'est pas dans une toute puissance de croire pouvoir s'inscrire. Non, ça, je crois qu'on peut répondre à ce volant.
On ne peut pas décider d'être un génie.
Voilà, on ne peut pas décider d'être un génie ou de ne pas l'être.
On ne peut pas décider de ce qu'on aime ou pas, d'avoir telle soif ou telle soif.
Non, mais par contre, on peut poursuivre, on peut s'éduquer, par exemple, à des formes qu'on ne connaissait pas. Et du coup, y trouver quelque chose, y trouver vraiment une attention, un goût, un désir, ou y avoir des phénomènes de aussi sociaux, où vous allez être attiré dans un domaine par quelqu'un que vous aimez bien, et puis ce domaine-là, du coup, vous allez l'aimer, et vous allez découvrir de la musique ou autre chose. Donc, toute cette ronde un peu humaine, quoi, qui est nos existences.
Je ne peux plus te voir en peinture. Tu ressembles à un vieux tableau. Mais un masque cache ta figure. Tu seras peut-être un peu plus beau. J'en ai assez, tu me fatigues. Tu te cramponnes, c'est écœurant. Le seul honneur que je brigue, c'est de te voir foutre le camp. Je ne peux plus te voir en peinture. Tu ressembles à un vieux tableau. Mais un masque cache ta figure. Tu seras peut-être un peu plus beau. Il faudra bien que ça te passe. Tu me supplies, c'est indécent. Les larmes à la fin, on s'enlace. Ce n'est même plus émouvant. Je ne peux plus te voir en peinture. Tu ressembles à un vieux tableau. sera peut-être un peu plus beau. Les souvenirs qui nous rassemblent ne suffisent plus, tu le sais. Oui, nous étions heureux ensemble, mais maintenant c'est fini, disparaît. Mais maintenant c'est fini, disparaît. Mais maintenant c'est fini, disparaît.
Cette chanson, Lionel Nakache, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Thomas Mann, Dr Faustus, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qu'avez-vous choisi ?
Alors, je ne vais pas me faire des amis, je pense, où ça, les gens vont croire que j'ai adopté une posture un peu, justement, élitiste ou je ne sais pas.
Intellectualiste.
Ou intellectualiste, voilà, c'est ça. Mais c'est assez sincère, c'est même très sincère. Et en fait, ça faisait écho à Thomas Mann. C'est qu'en fait, avant de lire Thomas Mann, comme beaucoup de gens, dans, je ne sais pas, dans ma vingtaine d'années, j'avais lu Zweig, en fait, et notamment le Zweig des romans et des nouvelles, 24 heures de la vie d'une femme, la confusion des sentiments.
Le joueur d'échecs.
Le joueur d'échecs, etc. Et en fait, j'étais gagné par un sentiment mixte, c'est que je voyais que c'était souvent des textes qui étaient adulés, tout le monde adorait lire, etc. Et moi, ça ne me plaisait pas, en fait.
Qu'est-ce qui ne me plaisait pas?
Alors, je me suis longtemps demandé, en fait, et je me suis longtemps demandé. Alors, d'abord, je trouvais, et là, c'est ma relecture aujourd'hui, mais je crois qu'il y avait déjà ces ingrédients, mais on n'avait pas tous ces éléments que je vais mentionner pour le dire. Mais il y avait quelque chose, une sorte de storytelling vraiment qui épousait parfaitement, on pourrait dire, les contours des attentes émotionnelles d'un public bourgeois avec des sentiments, des passions, quelque chose qui... Ça m'agaçait, en fait, le côté très léché, très abouti. Très...
Et programmatique.
Et programmatique. Et ça, c'est le deuxième truc, c'est que, pour plein de raisons, et même dans des essais plus récents, comme Apologie de la discrétion, où j'insiste sur l'importance du moment, en fait. Je pense que le moment vécu, donc d'arriver à investir consciemment chacun des moments de notre existence, qui est un programme philosophique qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est très important. Mais il y a chez Zweig quelque chose qui m'a toujours agacé, que je formulerai comme ça, c'est que chez lui, je trouve qu'il survalorise l'importance de certains moments, et donc la plupart de ses nouvelles et ses romans, il y a eu un moment, une scène fondatrice, un truc, un regard, et puis les mecs sont foutus toute leur vie, et ils ne pourront rien y faire, et donc ils combinent à la fois une sorte de survalorisation que je qualifierais presque cliniquement d'hystérique. Et comme vous le disiez, est-ce qu'on peut être un génie ? Ben là, c'est est-ce qu'on peut décider que ce moment-là, ça va être le moment important de notre vie ? Ben on n'en sait rien, en fait. Vous savez pas quels sont...
Il cède un peu au mythe du trauma originel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une scène qui, tout à coup, fait tout basculer dans l'irréversible, ce qui est une angoisse, quand même.
Qui est une angoisse, mais du coup, qui épouse aussi les attentes, un peu. Du coup, je trouve que c'est un peu facile, quoi, je me permets de le dire.
Oui, oui, et vous faites...
Tout le génie romanesque de Zweig. Et je me suis souvent demandé si c'est parce que moi, je le lis en français. Je parle pas l'allemand, je lis pas l'allemand, même le haut allemand de Thomas Mann.
Mais on pourrait différencier quand même entre la prose, les récits dont vous parlez, 24 heures de la vie d'une femme, le joueur d'échecs, et puis aussi Le monde hier, souvenir d'un Européen, où là, c'est des mémoires, voilà. Ou c'est biographie.
Alors, ce Zweig là, moi, me plaît beaucoup. C'est-à-dire, Le souvenir d'un Européen, c'est un livre exceptionnel, quoi.
Là, pour le coup, c'est pas programmatique. C'est sa vie, justement. Voilà. Donc, c'est la vie, c'est différent.
Et sa vie aussi n'était pas non plus, même la fin de sa vie au Brésil, son suicide, etc. Donc, il est pas loin de ses nouvelles aussi dans sa vie, on pourrait dire. On voit souvent des traversées de transatlantiques un peu en bateau dans ses romans, et c'est le cas là aussi dans sa vraie vie. Mais je dirais qu'il y a ce qui m'agaçait, c'est cette survalorisation artificielle d'un moment dans une vie, et puis du coup d'injecter la notion de tragédie antique. Une tragédie, c'est en fait votre vie, vous pouvez pas rien, tout est foutu, le destin est écrit à l'avance, les personnages peuvent s'animer, la tragédie grecque, c'est ça. Et donc lui, il combine ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens de ces nouvelles, il y a un instant qui va se passer, donc c'est pas avant leur existence, c'est pendant leur existence, mais une fois que ça arrive, ils peuvent aller dans tous les sens, c'est foutu.
Mais avec Adrien Leverkun, c'est pareil.
Vous avez raison, mais Adrien Leverkun...
Mais c'est pas écrit pareil, c'est ça ?
Non, c'est pas écrit pareil, ça veut dire c'est beaucoup... ça va pas... Il n'y a pas une facilité de la lecture. Il y a une facilité, et puis on n'évacue pas les choses en 10 pages ou en 5 pages. On voit, et franchement, c'est vrai, si vous lisez, si les gens... J'espère que beaucoup de gens seront amenés à relire ou lire Thomas Mann, mais il faut, c'est grimper une montagne, quoi. C'est des romans très très longs, il y a plein de développements qui vont vous paraître un peu plus ou moins pénibles. Mais c'est ça qui est sympa. Si on a vraiment le goût de l'exotisme, c'est qu'il faut découvrir quelque chose qui va sortir de nos attentes immédiates, quoi. C'est pas une apologie de l'effort que je fais. Mais je pense que cette sensation d'effort, elle permet justement de sentir que le monde nous échappe aussi. Voilà.
Merci beaucoup Lionel Nakache. De vous, on peut lire « Sujet, es-tu là ?» paru chez Odile Jacob. C'est le recueil de vos chroniques sur France Culture. « Perdons-nous connaissance de la mythologie à la neurologie » aussi chez Odile Jacob. Et aussi chez Odile Jacob, nous sommes tous des femmes savantes. Et pour lire Thomas Mann, lisez-le. Le Docteur Faustus, c'est disponible en livre de poche dans la traduction de Louise Servicen. Et un grand merci à Manon Delasalle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Anthony Thomasson à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.